C'est tranquille du côté de la page TOW ouais. Radio Show. De toute façon, au retour, on parle avec Bertrand Hébert. On parle de quoi? On parle de WrestleMania sur les ondes du 1570 AM et le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
Là, le TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW 9, samedi le 5 mai prochain au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les vedettes américaines Chris Masters, Jimmy Hart, le gérant le plus coloré des années 80 et Vader. 6 combats en plus d'un hommage posthume à Dino Bravo. TOW 9, Centre Pierre Charbonneau le 5 mai prochain dès 19h. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concert unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
La lutte TOW sous le soleil au Beach Club de Pointe-Calumet. Samedi le 14 juillet, on suit le chess, on sort les spinos et on assiste à un événement de lutte avec entre autres le légendaire Coco Beware et les meilleurs lutteurs du Québec. Le 14 juillet, le Beach Club de Pointe-Calumet se transforme en amphithéâtre plein air avec en primeur le premier concours Miss TOW. Surveillez les annonces à venir sur TOW Radio Show et sur la lutte Impact, diffusée sur RDS.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Salut, ici Patrick Laprade. Vous écoutez TOW Radio Show.
C'est la meilleure idée, ça.
Non, parce que Pat, il disait tantôt. Ça, c'est la tune de WrestleMania.
Original.
D'original, mais original. C'est pas l'original, c'est la leur attaque.
Comme Sugar Sammy, original.
Original.
It's original.
Je m'en vais le voir samedi.
Je l'ai vu.
Dis-moi rien.
De qui tu vas voir?
Sugar Sammy.
Ok, je pensais d'aller voir un show de lutte.
On va le voir à l'Olympia, c'est mon cadeau de fête.
Avec qui tu y vas?
De Francis, mon frère.
Oh boy.
Francis, t'as un frère?
Ben, c'est quasiment mon frère.
Ok, ok. Marc, j'écoutais la pub concernant TOW à la plage. T'as décidé, c'était quoi le titre maintenant? Vu-moi le chest,
non, non, c'est dans la pub. À date, pour l'instant, écoute, c'est encore loin, 14 juillet, là.
Ok.
Je peux te dire celui que j'ai. Je peux te dire celui que je t'ai proposé, Marc?
Je l'ai dit en ondes, 3 semaines, personne ouais. L'aime.
Ah, ok.
C'était quoi?
Tabassage à la plage.
Tabassage à la plage.
C'est une traduction francophone de Bash at the Beach. Ah,
c'était bon, autant que ta patate dans le speedo, si ça va en avant ou en arrière. Puis on la voyait pas, la team.
C'est pour ça que c'est pas confortable quand je m'assois.
Salut Bertrand.
Salut.
Sylvain a posé une belle question tantôt avant d'arriver en onde. Est-ce que tu as un pronostic pour le prochain WrestleMania? Est-ce que tu t'attends à quelque chose de grandiose?
Ben, je pense qu'au niveau de la présentation, à chaque année, on dépasse les expectations. Est-ce que les gars vont livrer la marchandise une fois sur place? Voilà, telle est la question. La réaction de la foule sera quoi? Est-ce qu'on aura vraiment une relation partagée de la foule entre le Rock et Cena ou on aura vraiment là, une foule un petit peu plus... en moyen, qui voyagent pour aller voir la lutte, puis qui risquent de faire pencher la balance de façon extrême du côté du Rock. Là. On a tout fait depuis les dernières semaines pour que ça arrive pas. Est-ce que voilà toute la question. Puis ensuite, ben comment ça va finir si on prend la fin de l'an dernier? Ben ça a fini un petit peu flat là avec l'intervention du Rock, Miz qui remporte le combat, etc. Est-ce que c'est tout ça là, qui fait? Est-ce qu'on va livrer en bout de ligne? Sur papier, on a une des meilleures cartes de l'histoire, peut-être. T'sais.
Ben écoute, on va aller tout de suite à WrestleMania 22 parce qu'on en a trois à faire aujourd'hui. Ça se passe à Chicago, c'est le 2 avril 2006. Aucun Québécois en action. T'étais où, toi, Sylvain?
Battleur Royal, j'imagine.
C'était un Raw versus SmackDown Battleur Royal. C'était déjà Rob Conway avait déjà sa gimmick de con man, là. Donc, je sais pas.
Ouais, je pense que c'est ça, une batteur royale.
Ouais, c'est ça.
Fait t'as pas eu un gros chèque cette année-là?
C'est tous des bons chèques, WrestleMania.
Ben, c'est l'importance d'être sur la carte à tout prix.
Bertrand, Money in the Bank match, Rob Van Damme, Matt Hardy, Lashley, Finlay, Ric Flair, Shelton Benjamin. Est-ce que Ric Flair méritait à son âge d'avoir un Money in the Bank match, c'est-à-dire escabeau, chaise et tout le kit?
Money in the Bank est devenu une façon de rentrer sur la carte plusieurs gars qui avaient pas la place pour avoir un combat à eux autres tout seuls. Puis dans ces années jusqu'à sa retraite, là, Ric Flair va être un peu dans cette situation-là, là, de se ramasser dans un match package, si on veut, ou un match pas vraiment principal sur la carte de WrestleMania. Là.
Mais je veux dire l'intensité du combat, c'est-à-dire la thématique Money in the Bank, ça inclut les tables, les chaises, les échelles.
Mais je pense que quand Ric Flair, il veut, il peut faire n'importe quoi. Là. Il a lutté par la suite contre Edge dans un ladder match qui était excellent pour un... quand Ric Flair veut s'y mettre, Ric Flair peut à peu près accomplir n'importe quoi, même encore à ce moment-là. Là. C'était encore le cas il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être une autre histoire, mais il y a 5 ou 6 ans, Flair pouvait faire encore à peu près n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'il n'était pas la star ou la vedette de ce match-là. Il était là dans le package, comme Sylvain disait, pour être sur la carte, pour avoir son WrestleMania payoff, plus qu'il était important au combat comme ça. Là.
Ouais, parce qu'il y avait des divorces quasiment chaque année, hein, Ric Flair, son
cœur. Ric Flair les a collectionnés de façon assez... il pourrait en montrer à plusieurs vedettes d'Hollywood, je pense.
Ensuite, on a eu un No Holds Bar match entre Shawn Michaels et Vince McMahon, qui était tout à fait différent à ce qu'on a vu en fin de semaine entre Sting et... James Stone, Bobby Roode, je veux dire.
Effectivement, si on peut donner une chose à Vince, c'est que quand Vince il était sur une carte à WrestleMania ou ailleurs, Vince, il allait pas là pour...
un pique-nique.
Pour un pique-nique, là. Il donnait 125% lui-même. Il faisait tout ce qu'il a déjà demandé aux gars de faire, et plus encore, là, je pense, là-dessus. Et je sens encore une performance qui demeure excellente. Par contre, ça va être... si je ne m'abuse, son dernier WrestleMania comme lutteur directement, là, donc là je rattrape, mais je veux dire, contre Shawn Michaels, c'est difficile de... on a souvent dit, là, comme avec Ric Flair, que Shawn Michaels pourrait avoir un bon match avec un balai, donc avec un Vince qui est prêt à tout, je pense que c'était quand même une formule gagnante à l'époque, comme pour livrer la marchandise dans le ring. Personnellement, j'ai pas trop trouvé que les build-ups de Shawn Michaels DX versus Monsieur McMahon, c'était toujours... les plus incroyables et les plus merveilleux, là. On est tombé dans l'humour un peu...
ouais, avec la religion...
dans la religion, l'humour un peu toilette avec
le pipi.
Le Spirit Squad pis tout ça, là. Mais bon, quand il est venu le temps de livrer la marchandise à WrestleMania, je pense que les deux gars étaient là.
Est-ce que Vince a toujours mis la barre haute quand c'est lui qui luttait?
Ben, je pense que oui, jusqu'à un certain point. Moi, je sais bien que si on se met à sa place, il peut pas aller là pis faire... à moitié, parce qu'il demande aux gars de donner plus à chaque fois, puis de se dépasser. Fait que j'imagine que c'est de ce qu'on a lu ou connu, et Sylvain pourra confirmer, c'est le genre de gars à vouloir que les gens se dépassent, il va donc exiger la même chose de lui-même dans ces circonstances-là, de dépasser les expectations des gens. Hein.
Sylvain, est-ce que Bertrand a raison?
Tout à fait, 100%.
Puis j'ai une question pour toi, Sylvain, rapide. Quand on il parle de monter des matchs, quand je parlais de Ric Flair qui était dans le Money in the Bank, qui incluait les tables, les chaises, les escabeaux, est-ce qu'on dit dans le script tu vas faire ça ou bien est-ce que tu veux faire ça? Un gars comme Ric Flair? Ou Ric Flair dit je veux le faire?
Ouais, ben c'est les gars s'en parlent. Il y a une il y a un gros brainstorming.
OK.
Au début, quand on pense à des matchs comme ça, à des spots en particulier, souvent on pense plus au spot, puis après, comment qu'on va l'amener? C'est comme un peu comme quand on...
Une sauce à spaghetti.
Ouais, tu vois les boulettes, puis après tu dis « OK, comment j'ai fait? Faut que j'y roule. » Mais c'est comme un match de lutte régulier. Moi, je commence toujours par la fin.
OK.
Puis après, on... C'est comme une maison, hein. Tu veux voir le plan fini avant de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec le confort de la cuisine, puis tout. Fait que c'est un peu la même chose.
Une histoire controversée, Bertrand, avec Rey Mysterio concernant la ceinture Heavyweight Championship.
Bon, c'est ça. Rey Mysterio, donc, va remporter la Royal Rumble. Et là, je veux dire, Eddie Guerrero est mort dans l'année qui a précédé ce WrestleMania-là. Et il y a toute une histoire qui est faite autour de la construction avec Randy Orton qui va dire que Eddie est en enfer. Et on va mettre beaucoup d'emphase sur le décès d'Eddie Guerrero pour vendre l'histoire de Rey Mysterio, pour vendre le combat et sa quête du titre au nom de Eddie. Chavo Guerrero va être impliqué là-dedans. Vicky aussi. Pour certains, c'est difficile là, de justifier, ou d'autres vont dire qu'on va trop loin quand on... En plus, c'était relativement très frais à la mémoire des gens, d'utiliser la mort de Guerrero pour vendre un combat de lutte. Donc, ça a créé beaucoup de controverses. Il y a eu toutes sortes de rumeurs derrière le rideau à savoir jusqu'à quel point les gars étaient heureux, contents. Les gens qui étaient impliqués dans ces séries-là étaient nécessairement à 100% pour l'idée ou pas. Par contre, ça l'a conduit Rey Mysterio à devenir le champion à WrestleMania et de remporter le titre dans ce triple threat-là avec Randy Orton et Kurt Angle. Et c'est peut-être pas une histoire ou une suite logique sans cet élément réel-là dans l'histoire. Je suis pas sûr que Rey Mysterio a le physique de l'emploi de quelqu'un que la WWE aurait fait de lui son champion.
Surtout le champion poids lourd, hein?
Surtout un champion poids lourd comme ça, ça l'a donné l'espèce de dernier step à Rey Mysterio de passer d'une carte, d'une attraction télévisuelle, d'une attraction auprès des jeunes, d'un très grand vendeur de marchandises à aller à cette coche-là d'avoir été un champion du monde. On peut dire bien les choses à propos du look physique de Rey Mysterio, mais Rey Mysterio livrait la marchandise à ses débuts. Triple A au Mexique, livré à marchandises à ECW, livré à marchandises à WCW, puis envers et contre tous, que tout le monde disait qu'il n'y aurait pas sa chance, il a livré la marchandise à la WWE aussi. Là,
il est en rémission, là. Il est blessé, c'est ça.
Il est blessé à un genou, là, fait que...
C'est celui qui a eu le plus d'opérations au genou que je connais.
Physiquement, Rey Mysterio vit sur du temps emprunté, là, je veux dire, il y a une carrière là, qui commence à être assez imposante en termes d'années, qu'il soit toujours actif. Mais là, on voit les dernières années, c'est pratiquement une blessure par année. C'est pas le coude, c'est un genou. Il y a tout le temps quelque chose qui semble arriver. On s'attend à un jour ou l'autre que Rey Mysterio devra tirer sa révérence. Là.
Enlever son masque.
potentiellement enlever son masque, effectivement, pour une deuxième fois.
Les entrées de Cena et Triple H t'ont marqué parce que tu m'en as glissé un mot.
Ouais, ben c'est ça, les entrées de Cena et Triple H, il y a des choses un petit peu spéciales, dont Triple H arrive avec son entrée Conan.
Et que ça a pas marché, ça!
Non!
Le King of Kings, hein?
Le King of Kings, ça a combien un peu flotte, mais à ce moment-là, Triple H est considéré comme un des potentiels candidats à remplir le rôle de Conan dans un film.
Il s'est auto-considéré.
Ouais, auto-considéré, et l'entrée était comme une espèce de tentative de montrer son potentiel dans un rôle du genre. Disons que ça l'a tombé un petit peu flat et ça, disons, c'est ça.
Un peu comme son physique à l'époque.
Ouais, faut voir la vidéo pour comprendre, je pense. Là. c'est ça. Il l'a fait une fois, si ma mémoire est bonne. Et on est passé à d'autres choses. Pour l'entrée de Cena, ce qui est intéressant, ils en ont parlé l'été dernier, là, quand CM Punk a finalement eu son
moment de gloire.
Son moment de gloire, que la première fois qu'on voit CM Punk à la télévision de la WWE, c'est dans l'entrée de John Cena à WrestleMania à Chicago. Il est un des gangsters qui roule avec... sur le bord de l'auto, comme dans l'entrée. Donc ça, c'est un petit détail intéressant dans l'histoire de WrestleMania, dans l'histoire de CM Punk avec la WWE, qu'il y a eu un caméo là, ce soir-là. Parce qu'il y a eu d'autres lutteurs dans le passé, ils ont eu des caméos souvent comme un masqué dans les combats d'Undertaker qui tenait les torches, ces choses-là, mais on voyait pas les visages des gens.
Comme Darko?
comme Darko ou autre. Là, je pense quand même que Christopher Daniels un année a été un des gars qui était caché sous une cagoule pour Undertaker. Donc c'est le genre de petits détails. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les images aujourd'hui, on voit très bien que c'est CM Punk qui est un des gangsters.
Et c'est-tu la fois qu'il avait failli scraper la Ford Mustang?
Non, ça c'était à 23, on y vient, celle-là.
Non, on y vient, celle-là.
Bertrand, John Cena qui bat Triple H par soumission. Sylvain, ma question est pour toi. Est-ce que Triple H est un gars d'équipe, étant donné qu'il a jobé plus souvent qu'autrement dans les finales de WrestleMania?
Étant un heel, t'as pas le choix, là. T'sais, j'ai été heel toute ma carrière. Tu perds. C'est, l'histoire, elle se continue si le babyface gagne. Comme ça, tu peux continuer avec un autre méchant. Faut que le babyface gagne, parce que sinon, Superman, il y aurait eu un film, puis Spider-Man, il y aurait eu un film. Puis...
On se transporte à Détroit, Bertrand, 20 ans plus tard, WrestleMania 23.
Oui, c'est le retour.
Encore pas de Québécois.
Encore, toujours pas de Québécois sur la carte principale. Donc, on retourne à Détroit, Ford Field. Il y avait un impact, une tentative de retourner à Détroit, endroit du record de WrestleMania, pour tenter de rejoindre l'assistance de WrestleMania 3. On va avoir quand même une foule respectable, mais on sera loin là, du fameux chiffre dont on a parlé de WrestleMania 3, là. On sera très très loin de ce chiffre-là. Par contre, le chiffre officiel dépasse ce qui serait le vrai chiffre de WrestleMania 3 si on se fie à la vente des billets, comme on a vu là, dans la première chronique il y a quelques semaines.
Ben oui, t'as pété notre ballon en disant que c'était pas vrai le chiffre.
Ah. 93 000, c'était pas vrai?
Non.
Le premier?
Premier,
60,
non.
60.
Oh, 78 000 là, qui était le vrai chiffre, aux alentours des 78 000.
Pourquoi ils ont dit 93, là-bas?
Bertrand?
La conjoncture est là. Il y a toutes sortes de façons de compter le nombre de personnes présentes à un événement.
À cause du floor?
Le floor. Moi, mais on rajoute souvent tout le personnel par-dessus. On rajoute tous les billets donnés par-dessus, etc. Mais le chiffre officiel de billets vendus puis la gate de ce moment-là, c'est 78 000 personnes. Ajouté, on voulait battre le record qui était, je pense, qui était le pape, là, ouais. Dans le même building. On voulait annoncer un chiffre supérieur à ça. Comme je disais dans sa chronique à ce moment-là, ce que Vince McMahon a déjà dit à ce sujet-là, c'est que tout ce qui est à la télévision fait partie de l'histoire. Et donc, c'est écrit de façon lousse pour rehausser l'histoire toujours et non pas toujours pour...
Mais c'est, s'il y a 80 000 personnes, c'est un petit peu logique qu'il y ait 10 000 personnes qui y travaillent.
Ben, c'est fort possible, effectivement, que si on se met à faire les calculs de tout le monde qui était autour...
Parce qu'à TOW...
Il y a quoi dans le parking?
Je connais des promoteurs au Québec qui disaient ça comme...
Il y a plus de lutteurs.
Ils annonçaient une foule, mais ça l'incluait
les
monde
lutteurs, les chaises, les hot dogs.
ça calculait tout le monde.
On vient... oui, Marc?
Non.
Non? T'allais pas dire une phrase?
Non.
Non, OK.
OK, baisse ta main, Marc.
Baisse ta main. On revient à WrestleMania 23. Il y a Aretha Franklin qui est un petit peu moins en shape qu'il y a 20 ans.
Pour rejouer le thème de WrestleMania 3, WrestleMania 23, 20 ans plus tard, Aretha Franklin revient chanter à WrestleMania 23 comme elle avait fait à WrestleMania 3. Alors, on a des petites choses comme ça. Vince qui va faire un petit speech au début du gala également, comme à WrestleMania 3. C'est un peu le c'est quand même un point marquant, le WrestleMania 3 pour la WWE dans son histoire, peu importe l'assistance. Tu demandes aux gens aujourd'hui, le fameux combat André contre Vince, ça l'a marqué une génération d'amateurs de lutte à ce moment-là. Puis ça l'a comme aussi marqué cette espèce de passage à fédération unique et majeure en Amérique du Nord, là, et partout dans le monde. C'est vraiment un événement qui est marquant. Donc on a un peu célébré ça avec WrestleMania 23 de toutes sortes de petites façons.
Cena et Michaels, on parle du passage de la torche.
Ben on peut appeler ça un peu le passage de la torche. On voit là, avec la progression de John Cena là, qui rapidement atteint les sommets de l'échelle de la WWE. Puis je veux dire l'année d'avant c'est Triple H, mais cette année-là c'est Shawn Michaels John Cena devient le gars. Le gars que la fédération, que Vince back, c'est son gars, c'est son lutteur, c'est son champion. Puis je veux dire, on peut dire beaucoup de choses contre Vince ou contre la WWE. Par contre, si on peut dire une chose, depuis qu'ils ont décidé que Cena, c'était le cheval, là, si on veut parler en termes de course, jamais ils ont dévié de cette ligne-là que Cena était leur homme, là, puis que tout était basé sur Cena, puis c'est Cena qui est le train en avant, de la locomotive en avant du train. Là.
Ça, c'est le train, mais c'est pas lui le moteur.
Shawn Michaels, c'est Monsieur WrestleMania, donc vaincre Shawn Michaels à WrestleMania, c'est quand même un exploit en soi, là, une coche à son revolver de, pour John Cena.
Mais Bertrand, ce qu'il ne faut pas oublier aussi de ce WrestleMania-là, c'est que malgré le main event Cena-Michaels, c'est pas le match qui a attiré principalement.
Le gros match à l'intérêt externe du monde de la lutte, c'est le combat Umaga avec notre ami
Bobby Lashley.
Avec les cheveux de Vince contre les cheveux de Donald Trump. WrestleMania 23 demeure le pay-per-view WrestleMania avec le plus gros buy rate de l'histoire, donc le plus d'achats à la maison.
Ça m'impressionne.
Worldwide, faut le dire, c'est à l'échelle mondiale et non pas juste les buys en Amérique du Nord. C'est 1,2 million de buys, mais à l'échelle mondiale.
Ben, c'est quoi un pay-per-view normal? 200 000?
Bon, je pense que c'est dans ces eaux-là.
300, ouais, dans ce coin-là.
Aux États.
Oui. La WWE a jamais attiré plus d'un million, a jamais fait un million d'achats pay-per-view en Amérique du Nord. Ce que UFC et la boxe ont fait là, à maintes reprises.
Sylvain, la semaine passée, t'en avais parlé rapidement comme quoi que Lashley, après avoir vu son chèque de paye, a sacré son camp.
Ouais.
Parle-en, je veux que tu détailles ça.
Ben, je pense que...
De ce Lashley, que tu sais.
Ben, qu'est-ce que je sais, c'est... Je me souviens que Bobby était un fort travaillant, mais il s'attendait à un gros, gros chèque de paye. Et quand je parle gros dans les WrestleMania, quand t'es médiatisé comme qu'il a été... Moi, si j'aurais été lui, je m'aurais attendu à peu près un 250, peut-être, 1000. Puis, je pense qu'il y avait eu 75 000.
Ah, oh, ouais. Mais ça, les chèques, ils les donnent tout de suite après le show?
Non, ça arrive quelques semaines après.
Parce que moi,
c'est pour ça qu'il n'est pas parti tout de suite après.
Moi, j'avais entendu dire que Hulk Hogan s'était essuyé le derrière avec son chèque après SummerSlam contre Shawn Michaels. Et puis, il avait sacré son camp par la suite.
Ça se peut.
Mais encore là, Lashley, c'était un peu le puppet là-dedans. Je veux dire, les gars importants, c'était pas Lashley, c'était pas Umaga, ouais, c'était
Vince
et Donald
Trump. Mais
quand t'es là-dedans,
tu vois pas ça comme ça.
Oui, non, j'en doute pas. Mais c'était... Personne n'a acheté le pay-per-view.
C'est son corps, c'est lui qui a eu toutes les bombes.
Je
le comprends.
Son nom.
Il pensait qu'à Chine, mais... Parce que dans ces années-là... Les chèques étaient beaucoup moins gros qu'avant parce qu'ils payaient John, ils payaient Triple H, ils payaient Sean, puis les autres, c'était des bouchées de pain, comprends. Pis si moi, j'aurais été dans le temps de la guerre, WCW... Ou,
j'avais été.
Si j'avais été, excuse-moi, tu dormais-tu?
Non. Non, il est très attentif, Marc, très attentif.
Si j'aurais été dans le temps de la WCW puis la WWE, j'aurais eu un contrat garanti d'à peu près 600 000 les yeux fermés. Tandis que à WWE, dans les dernières années, les gars ont de la misère à se faire garantir 100 000.
Mais Bobby Lashley, ça a été un peu naïf là-dedans. Est-ce qu'il a mal compris comment la business marchait?
Ben non,
pour,
mais non? Si tu as des chèques de 25-30 000 pour des pay-per-views ordinaires, tu te dis que WrestleMania va être grandiose, puis... Ça ne l'a pas été pour lui.
Question rapide, est-ce que c'était des vrais billets de 100 $ qui pleuvaient du ciel à Détroit?
Pour les gens, oui. Oui,
c'était vrai.
Oui, je me souviens pas combien d'argent qu'il avait. Je pense que c'était 10 000 $ qu'il avait donné.
Oui, à peu près.
Je pensais que c'était plus que ça. Bertrand, c'est le plus gros décor de l'histoire.
Oui, c'est le plus gros décor. On va revoir tout le principe du décor à l'époque. On va parler là, de plus d'une semaine pour monter trois semaines pour vraiment préparer le Ford Field. Ça va prendre 30 heures ensuite de faire le décor. On va totalement changer là, le look de WrestleMania avec. Ça commence avec ce pay-per-view-là.
T'as-tu dit 30 heures pour défaire tout ça qui a pris 3 mois?
Ouais, ça a pris 3 semaines de bâtir.
Tout le temps pareil.
C'était-tu Unity?
Non, c'était Poto.
Parce que nous autres, on a eu de la misère à cette Eustache.
Eh, Seigneur, on était juste quatre.
Hey, on reste dans... OK?
Excuse-moi. Oui, patron. Bertrand, ils avaient repeinturé, je pense, hein, le stade, hein, c'est ça?
Ça, c'est à Harlan. C'est l'année d'après, à 24, qu'on va retaper en plus le stade.
Le Citrus Bowl, on est rendu le 30 mars 2008. Puis, parenthèse comme ça, qu'est-ce qu'on fait cette année s'il mouille? À WrestleMania 28, s'il pleut.
OK, je vais t'expliquer, là.
Oui.
En Floride, là, il mouille de 4 à 5. That's it, that's all.
C'est tout?
C'est tout.
Ah, OK.
Il mouille pas le soir.
Bertrand, on est au Citrus Bowl, les combats les plus importants. Il y a Flair qui met sa carrière en jeu.
Eh oui, ben c'est la fin d'une époque. Si on prend la run de Flair avec TNA... on peut dire que c'est la fin de sa carrière, ce combat-là avec Shawn Michaels, là, que c'est la fin du Ric Flair qu'on a connu, là, avec une dernière grande performance. Je pense que son retour, là, je veux dire, pour la première fois, moi, un grand fan de Ric Flair, quand on voit Ric Flair à TNA, c'est plus Ric Flair, c'est plus le gars qui livre la marchandise comme il est déjà livré. Que ce soit en combo ou même, tu vois, là, qu'il est comme tous les autres gars avec la TNA, il est
sous cash
control, puis il ramasse son chèque. Et that's it.
Fait que la TNA, est-ce que c'est un rendu, un... On l'appellera pas le Titanic parce que le Titanic c'était gros, là, mais une chaloupe.
Country Club.
Country Club.
Ben écoute, faut quand même que tu dises Ric Flair, il gère la carrière de Gunner. C'est quelque chose, là.
Qui?
Gunner.
Tout un step.
Ouais. Il y a un gars du WWE qui est Gunner Scott.
Ouais.
Il avait eu un petit push, puis je l'ai. il a fini son push, puis c'est moi qui le battais dans le show.
C'était Brent Albright, ça. Ouais. Tu l'avais revu au show de Ring of Honor à Montréal.
Oui, c'est vrai.
Bertrand, on parle de Randy Orton qui bat encore une fois à Triple H et John Cena également.
Ouais, c'est un combat un peu sans. On a fait un triple threat dans le fond parce que on est encore avec Triple H puis John Cena, on est encore avec John Cena puis Randy Orton. On est à l'époque où Randy Orton et John Cena ont été mariés ensemble, comme on dit, à toutes les pay-per-views ou à toutes les semaines. Je veux dire, on en était au point que déjà à cette WrestleMania là où ce qu'on était plus capable de voir Randy Orton puis John Cena en peinture. Là, personnellement, et de l'avis de beaucoup, là, c'était un mariage de très longue haleine là, entre les deux.
Il n'y avait rien d'autre.
Il n'y avait rien d'autre. Et ça, c'est toujours un danger quand t'es peinturé dans ce coin-là où t'as rien de mieux que ce que t'as fait encore et encore, semaine après semaine, mois après mois.
Est-ce que c'est vrai que c'est l'année des plus bas ratings jamais connus à la télévision?
Ça, là, j'ai pas les chiffres comme ça au bout de mes...
C'est vrai qu'ils sont descendus en bas de 2.3 régulièrement.
C'est fort possible.
2.3, ça me surprendrait pour Raw.
Ouais, c'est bas.
C'est très bas, le 2.3. 2.3 à SmackDown, ça se peut, mais pas à Raw.
Floyd Mayweather Jr. contre Big Show.
Et là, c'est le retour des célébrités avec une tentative là, avec Floyd Mayweather de nous vendre une célébrité impliquée dans un combat. Et là, c'est le boxeur qui était un boxeur actif, qui avait quand même une bonne réputation d'attirer aussi en pay-per-view contre le Big Show là, qui vend une nouvelle gimmick de du coup de poing à Samoir, là, si on veut. Là.
Est-ce qu'on a donné vraiment 20 millions à Mayweather?
Je pense que ça, c'est un chiffre qui est un work. Là. Mm-hmm. Ça fait partie
gros work.
Ça fait partie de la storyline. C'est un chiffre qui est totalement ridicule. Ce serait 4 fois ce qu'on a donné à Mike Tyson.
Mais encore là, Floyd Mayweather... Comme Donald Trump l'année d'avant, c'est vraiment un gars qui a permis d'attirer et de faire vendre Insider. Des pay-per-views à du monde, là, justement, qui l'aurait pas fait habituellement.
C'est ça, exactement. C'est l'attrait hors lutte, là, si on veut. Là.
Ça a été quoi, les ventes pay-per-view?
Pour celui-là, j'ai ça proche. Je peux dire ça. Là.
C'est sûr que t'as ça proche.
Ouais. C'était capable de coller les shots avant qu'on les dise à la radio.
Ouais.
Hein, t'as pogné Bertrand. Ouais, c'est bien, c'est bon.
Légèrement en haut d'un million quand même.
Ah ben c'est bien.
24.
Undertaker qui cimente son héritage et Edge entre dans la cour des grands.
Ouais, ben, je veux dire, si on parle, Undertaker n'a pas été chanceux avec son main event de WrestleMania, WrestleMania 13 avec Sid et un combat, disons, moyen, un pay-per-view qui n'a pas attiré. Avec Edge, là, il est le main event du show, fait quand même un bon match, bien senti avec Edge, il remporte la victoire.
Et le championnat.
et le championnat en finale de WrestleMania de façon éclatante quand même si on compare à d'autres de ses victoires de dont celle contre Sid entre autres là qui sont un petit peu qui manquaient un peu de lustre cette victoire là et là on est rendu au point où la streak là, prend cette espèce de vie de par elle-même aussi importante que le combat de championnat lui-même là. Donc on commence là, ça commence à avoir une importance aussi grande que les ceintures à WrestleMania 24 vraiment là, c'est un c'est, il est devenu là, une coche supérieure au personnage habituel qu'on était habitué avant. Là.
Bertrand, les villes qui font des demandes officielles pour obtenir l'événement comme le Super Bowl puis les Olympiques.
Orlando s'est battu pour obtenir le WrestleMania 24 et je veux dire, ça lui a donné l'idée de dans les années qui vont suivre d'entertainer l'idée de que les villes leur présentent des présentations puis essaient d'obtenir l'événement parce qu'on s'entend que quand on parle d'un événement comme WrestleMania sans être le Super Bowl ou les Jeux Olympiques c'est un événement qui a une retombée économique. Et ça, je veux dire, que t'aimes la lutte, que t'aimes pas la lutte, toutes les villes aiment ça. quand t'as du monde qui voyage à l'extérieur, qui vient dépenser 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours dans certains cas, sur le territoire de la ville, les hôtels, les restaurants, ça n'a pas de prix un événement comme ça pour une ville. Donc, c'est un processus normal et même souhaitable pour la WWE puis WrestleMania que ça devienne comme ça. Et c'est Orlando là, qui a vraiment lancé. Si je me souviens bien, c'est eux-mêmes ils ont préparé un package de présentation. C'est eux autres qui sont allés à la WWE pour l'événement, là, c'est pas la WWE qui les a sollicités, là. Puis ils ont vraiment impressionné avec leur présentation puis le package qu'ils offraient à la WWE pour amener l'événement à Orlando. Là.
Bertrand, merci beaucoup. La semaine prochaine, on boucle la boucle de toutes les WrestleMania.
Ouais. Donc 25, 26, 27.
Yes, je te remercie beaucoup de prendre le temps de nous parler.
Est-ce qu'on va avoir un WrestleMania avant 40 à Montréal?
Ouf.
La seule salle qui pourrait maintenir un WrestleMania,
c'est le roi du camion.
J'aurais le goût d'arrêter là, c'est trop bon. Non, c'est le stade olympique, puis ça arrivera jamais au stade olympique. Non,
moi, je sais qu'il y avait eu des pourparlers. Je l'avais déjà demandé à un promoteur et il demandait trop cher.
Ouais, la RIO est vraiment, elle veut une cote sur tout ce qui est vendu. C'est vraiment là, même dans les années 90, là, Vince s'était renseigné avec Jacques Rougeau dans le temps. Puis c'était vraiment là un money pit. Là. C'était vraiment pas une bonne affaire de faire
ça. C'est pour ça que c'est bien géré comme ça, le Stade olympique. C'est du monde intelligent avec la vision.
Et voilà.
Puis oubliez pas que le Stade olympique, il y a des dates aussi là qu'il est pas disponible non plus.
Ben quand il y a un morceau qui tombe aussi.
Entre autres. C'est pour ça qu'il y aura jamais de UFC au Stade olympique. Non.
Bertrand, merci. On se parle la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Salut.
Bye. Bye. Bye, Bert.
On s'arrête au retour. Chicago qui accueille Shimmer, mais également Chicago qui accueille Pat Laprade sur les ondes du 1570 AM. Wow. Le 1570.ca.
Sur les ondes de CGLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW 9, samedi le 5 mai prochain au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les vedettes américaines Chris Masters, Jimmy Hart, le gérant le plus coloré des années 80 et Vader. 6 combats en plus d'un hommage posthume à Dino Bravo. TOW 9, Centre Pierre Charbonneau le 5 mai prochain dès 19h. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
La lutte TOW sous le soleil au Beach Club de Pointe-Calumet. Samedi le 14 juillet, on suit le chess, on sort les spinos et on assiste à un événement de lutte avec entre autres le légendaire Coco Beware et les meilleurs lutteurs du Québec. Le 14 juillet, le Beach Club de Pointe-Calumet se transforme en amphithéâtre plein air avec en primeur le premier concours Miss TOW. Surveillez les annonces à venir sur TOW Radio Show et sur la lutte Impact, diffusée sur RDS.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Hey gang, this is Mickey James of TNA Impact Wrestling. Get all of the latest pro wrestling scoop by listening to TOW Radio every Tuesday night at 9 p.m. on 1570 AM.
1, 2, 3, 4...
Tout le monde!
Rock, rock, rock the way beach.
La tune de Coco Beware.
C'est ça, sa nouvelle tune. C'est classé. Hey, justement, je voulais vous. Tu sais, on demande souvent aux fans pour des questions, des commentaires, des opinions. Puis on parlait du logo TOW Radio qu'on a eu des belles
très
épreuves.
Beaux,
ouais. Des très, très bons. Puis
on n'a pas fait de décision arrêtée, donc continue à envoyer.
Oui, oui, mais ça sent bien. Je pense que Marc a mis le doigt dessus. Là.
D'un qui accroche. Là.
D'un qui accroche.
Lui avec le micro.
Mais j'aimerais ça parce qu'il y a beaucoup de talent
dans nos auditeurs. Il y en a un nouveau qui accroche, là, par exemple. C'est le radio show, en gros. Le TOW en gris, comme en relief par-dessus, avec un petit micro en bas côté du S. C'est à date, c'est celui sur la page Facebook, la TOW Radio Show, qui a le plus de commentaires. On dit que c'est celui qui fait le plus pro. Et c'est à date, c'est juste des commentaires positifs.
Excellent. Donc, t'as pas mis de commentaires là-dessus?
J'ai pas mis de commentaires là-dessus.
On va revenir à la chronique après.
Hey, attends une minute! Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est ça. J'étais à la recherche de nouvelles musiques pour mon personnage, pour la TOW, pour la tournée 2012. Alors, s'il y en a qui ont des idées, me connaissant mon personnage à RDS puis à la TOW...
Pour Iceman, là, tu parles, hein?
Non, pour Sylvain Grenier.
Tarté WrestleMania.
Iceman, on l'a, la tonne est super bonne.
Ouais, super bonne, l'entrée est bonne. Marc, on a un gros party à annoncer.
Ouais, ça va être au Boston Pizza, Ville-la-Salle, notre chum Francis. Je vais avoir plus de détails la semaine prochaine, il reste pas grand temps là.
Pas de détails, on s'en va là, écoutez, WrestleMania, toute la gang ensemble, manger de la bonne bouffe, boire de la bonne bière, puis il y aura pas de
moi je bois du vin.
C'est en face du Carrefour Andrignon, c'est en face du Carrefour Andrignon à Ville-la-Salle.
Ouais, c'est bien spoté.
Un ancien lutteur, Francis Lebel, qui était sous le nom de Stan Francisco, un de mes bons chums aussi, donc ça va être un gros party, c'est la première fois qu'il fait un événement de lutte. À son Boston Pizza, il attend bien du monde. Alors si vous voulez avoir du fun là, ça va être la place à être.
Ouais. La semaine passée, j'ai traité Patrick Laprade de blogueur quand on parlait de son article. Et puis pour mettre en ligne mes dires, j'avais une comparaison. J'avais fait une entrevue avec Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, qui est un journaliste de la presse.
Journaliste de la presse, chroniqueur télé,
le Journal de Montréal. Aussi. Excusez-moi.
Il était dans le Journal de Montréal.
Et le devoir.
98.5, puis
c'est ça, c'est un chroniqueur, puis j'ai repris une cote sonore lorsque j'ai fait une entrevue avec lui, donc je vais vous faire entendre l'extrait, ça dure à peu près une minute, les gars, soyez attentifs. Qu'est-ce qui te différencie du journalisme écrit, du chroniqueur, du blogueur?
Ben, c'est ça, le journaliste comme tel, on lui demande généralement de faire abstraction de ses opinions, de son jugement. On lui demande de rapporter fidèlement un événement, disons, là, tu sais, en donnant la parole à tous les protagonistes puis en amenant les faits le plus neutre, de façon la plus neutre possible. Le chroniqueur, lui, il va te dire, il va te donner son opinion. Et, tu sais, par exemple, le journaliste objectif va te dire que tu portes un manteau gris, fabriqué en Chine, qui va jusqu'aux genoux. Mais le chroniqueur va te dire, ton manteau, il est laid. Tu comprends? C'est la nuance, si on veut.
Donc, lui, il a droit à son opinion, puis il se donne le droit d'imprimer son opinion avec ce qu'il a.
Oui, mais il peut pas dire que ton manteau gris est rouge. Il faut qu'il respecte les faits, mais il a le droit de donner l'interprétation qu'il veut à ces faits-là, tu sais.
Alors voilà, Patrick, pour...
Ils n'ont pas donné la définition du blogueur.
Non, non, c'est chroniqueur, ça.
Mais tu vois que ça fait longtemps que tu as fait cette entrevue-là, parce qu'on n'aura pas de manteau aujourd'hui avec 24.5.
Non, on est pratiquement tous en short. Ben, on est tous... La moitié de la salle est en short ici ce soir. Moi, je disais que tu n'étais pas un journaliste, parce que c'était ton blog que tu faisais avant, qui était maintenant rendu sur le site de RTS.ca.
OK, ben écoute, premièrement, je suis pas journaliste, tout simplement, parce que j'ai pas d'études là-dedans. Par contre, je suis à peu près le seul qui couvre ou qui essaie de couvrir le plus possible la scène québécoise, le territoire du Québec. Écoute, oui, c'était un blog que j'avais avant. Maintenant, c'est rendu sur RDS. Je pense pas. Blogueur, écoute, je comprends d'où tu venais avec ce mot-là. Par contre, je pense que je fais un mélange un peu des deux. Je comprends ce que Patrick Lagacé disait comme opinion là-dessus, et je le partage aussi. Je pense que j'essaie de faire un milieu des deux. Je vais rapporter des faits. Dans certains cas, qui vont être strictement des faits. D'autres fois, je vais rapporter des faits où je vais émettre en plus une opinion. Mm-hmm. Et effectivement, à quelque part, il a raison. Si le manteau il est gris, je peux pas dire qu'il est rouge. Cependant, il y a des fois où je vais me laisser aller un peu plus dans des opinions que pas nécessairement en ne donnant pas les bons faits, mais plutôt peut-être en minimisant les faits puis en y allant en plus d'une critique de mon opinion sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai pas aimé. Mm-hmm. J'essaie de faire un milieu entre tout ça. Écoute, je fais
un blog, c'est pas avec des échanges.
Ben un blog, c'est il va avoir un sujet, comme mettons le sujet à Patrick, ok, sur RDS.ca maintenant qui est diffusé, et puis les gens vont commenter.
Ah, okay. Tu peux faire ça maintenant aussi sur RDS,
sur des chroniques,
sur
personnages.
Wikipedia.
Moi, ton terme blogueur, je l'ai pris beaucoup plus en anglais. Bon, le genre de newsletter qu'il y a, les fameux dirt sheets que toi t'as dû entendre parler aussi du temps que t'étais à WWE, Sylvain. Là, les
je lisais pas. Ben, j'ai entendu parler.
Exactement. Tu sais, puis ça aussi, ça fait bon, c'est relativement controversé, puis ça l'est depuis que c'est commencé.
Mais quand tu comprends qu'un enfant de 5 ans peut écrire ses commentaires puis avoir un nom qui s'appelle the number one WWE fan, c'est un blogueur, puis il écrit ses commentaires. Ben, faut pas que tu prennes ça.
Non, mais en même temps, je pense pas que c'est ce que je fais non plus.
Non, mais là on parle des blogueurs.
Ah oui, exactement. Fait, c'est pour ça que ton terme blogueur, je pense pas que c'est adéquat par rapport à ça.
Toi, t'es plus un chroniqueur.
Je vais être plus un chroniqueur. Je vais émettre des opinions.
Je veux que tu le spécifies parce que je suis le premier à reconnaître que j'ai fait une erreur en disant que c'était un blog parce qu'avant t'étais pas à RDS.ca.
Non, c'était quand même un blog
On a tous rentré en même temps à RDS.ca. Ah,
absolument.
Je sais.
Absolument.
Mais moi, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que avant qu'il y ait RDS.ca, tu faisais quand même ton blog.
Ben, j'ai fait mon blog.
Existes-tu encore?
Non, mon blog, ça a pas duré si longtemps que ça. Ça a duré à peu près 6 mois. Et ensuite, j'ai transféré mes chroniques directement sur un site web, un forum de lutte qui était FN Lutte. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de le faire sur RDS.ca. Mais je veux dire, l'essence de mes chroniques était les mêmes. C'est-à-dire que je donnais mon opinion en rapportant des faits. J'allais voir des shows. Je donnais mes opinions sur différents sujets entourant la lutte québécoise. Ça a toujours été le même style de chronique là, depuis à peu près 2 ans.
Tu as-tu qui, Sly?
Il est 11h.
Non, mais... Non, il est 11h encore. Mais je me fais le porte-parole de nos auditeurs. C'est bien le fun de parler de ça, mais j'ai hâte qu'ils me parlent de Shimmer.
Oui, ben
moi, je m'alignais pour ça. Là. Moi,
je l'ai pas trouvé sur Wikipédia.
Ben, écoute, je voulais mettre ça au clair, puis je voulais le faire en ondes, et puis je sais que ça t'a piqué, puis écoute, je voulais que tu le saches, puis j'avais mon point à donner.
Je suis content d'avoir entendu ça, la définition...
De Patrick Lagacé.
Patrick, tu étais en fin de semaine à Chicago. Ils t'ont accueilli, bras ouverts ou bras fermés, ça on le sait pas. Mais est-ce que...
As-tu vu Marilyn Monroe, la statue? Non! Ah!
Le coyote est toujours accueilli à bras ouverts par tout ce qui va.
Patrick, parle-moi de Shimmer, parce que je comprends pas Shimmer. C'est là je comprends Femme Fatale, mais Shimmer, il y a deux galas par soir. Lufisto en avait parlé ici également, mais avec en fin de semaine, il y a deux galas par jour, c'est ça?
Oui, en fait, ce que Shimmer fait, ce sont des enregistrements pour DVD. OK, eux autres, leur business marche surtout autour des DVD.
Comme la TOW, Marc?
Ils ont à peu près 200-250 personnes qui assistent au show, et ça commence vers une heure ou deux dans l'après-midi. Il y a deux galas, un à suite de l'autre. Ça se termine vers les 8-9 heures le soir. Il y a entre les deux galas, qui ont à peu près une dizaine de matchs chaque. Ouf. C'est... mais la foule reste dedans. Ouais. Là.
Est-ce que la foule vient, exemple, parce que toi t'es parti d'ici, mais vu que t'es un chroniqueur, mais est-ce que la foule est plus autour de Chicago, mettons, ou si ça vient de partout, parce que 250, c'est pas gros. Là.
C'est pas gros, il y a du monde, évidemment du monde du coin, mais il y avait, comme au dernier taping, il y avait du monde d'Angleterre qui sont descendus.
Ah, ouais.
Il y avait quelques lutteuses d'Angleterre aussi. Il y a vraiment, Shimmer, c'est un peu, comment je pourrais dire, comme la Ring of Honor de la lutte féminine, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les meilleurs, autant des États-Unis que de l'extérieur, un peu partout. Il y avait
ça
des
attire 250 personnes.
Ouais, mais par contre, ça vend beaucoup en DVD.
Quand tu dis comme ROH, là, après WWE, j'imagine, non?
Oh oui, non, ouais, on parle toujours de lutte indépendante ici. Okay. Ce que je veux dire, c'est que sur le show, il y avait une trentaine de filles, il y en avait 17 qui venaient pas de l'Amérique du Nord.
Dont deux Québécoises.
Je disais Amérique du Nord. Ouais, ben en fait, oui, c'est ça. Il y avait deux Québécoises, Calamité et Lufisto, mais il y avait aussi 5 filles du Japon, 3 d'Australie, 2 d'Angleterre. Il y a vraiment un bassin qui est vraiment international, puis c'est ça qui permet à Shimmer de vendre aussi beaucoup de DVD, parce que c'est vraiment, ils font venir ce qu'ils considèrent parmi les meilleures lutteuses indépendantes au monde. Il y a plusieurs lutteuses qu'on voit à la WWE ou à la TNA qui ont performé à Shimmer quand ça a commencé. Les Beth Phoenix, Natalia, ça l'a commencé là, ou en tout cas, ça l'a lutté. Ouais, peut-être pas commencé, mais ça l'a lutté là.
Ça faisait partie de leur progression.
Effectivement. Et puis, entre les deux enregistrements, il y a les filles qui sortent et qui vendent de la marchandise, là, photos, t-shirts, DVD. C'est fou. Les fans de lutte féminine sont très particuliers, parce que c'est des gens qui sont passionnés pour de la lutte féminine et qui vont être prêts à dépenser beaucoup d'argent pour ce produit. C'est un public très, très particulier à cet effet-là, qu'on retrouve pas dans la lutte indépendante de façon normale. Écoute, à chaque après-gala...
Comment ça me fait peur?
Non, mais à chaque après-gala, il y a un gros party qui se fait dans un restaurant, puis les fans sont invités à venir là, puis ils vont prendre des photos avec les filles. Il y en a qui vont apporter des cadeaux aux filles, des dessins. Il y en a qui vont prendre la peine de faire des gros dessins. C'est super bien fait. C'est vraiment un public qui est passionné, qui est vraiment différent là à ce niveau-là, comme on voit pas ailleurs.
Comme je t'ai raconté la semaine passée aussi pour Femme Fatale. Mais la salle était pleine, et puis j'étais surpris. J'étais surpris de l'intensité qu'il y avait.
Donc, les enregistrements se font à raison de 2 par journée. Ils font ça le samedi, ils font ça le dimanche. Et c'est vraiment, là, en enregistrement. Là. Au pire, on va prendre des fois 1 minute entre 2 matchs. Mais bon, l'animateur va être là, puis il va annoncer. C'est pas vraiment...
Il n'y a pas de storyline, c'est ça?
Oh non, il y a des storylines en masse. Mais ça sera pas aussi fluide
qu'un show normal.
Exactement.
C'est un peu saccadé comme un Raw ou un SmackDown.
Ça va ressembler un peu plus à ça.
Ils font du montage vidéo.
Les autres vont faire du montage vidéo. Donc, c'est pas, ça n'a pas la même fluidité où, admettons, Jean-François Kelly qui va animer entre...
Que lui est fluide?
Non, mais il est fluide dans le sens qu'il va animer entre les combats. Il va mettre... Non, c'est pas vraiment ce concept-là.
C'est comme un taping de
ça va ressembler TV. Beaucoup plus à un taping de télé.
Dis-moi, je vais te poser une question, Pat. Oui. Sly, à RDS, beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec les combats de filles.
Okay? Oui.
Est-ce que Sly aimerait Shimmer, d'après toi?
Probablement. Les filles, ce qui est, évidemment, avec le bassin de lutteuses qu'ils ont, c'est des filles qui vont être capables de frapper. Tu sais, souvent, on reproche aux filles d'être des fois un peu plus molles ou d'être, c'est ça, exactement. À Shimmer, on en voit presque pas de ça. Les filles vont être beaucoup plus... Il y a d'ailleurs celle qui a gagné le titre de Shimmer durant le week-end, Saraya Knight, qui vient d'Angleterre. Sa fille a été signée récemment avec la FCW. Là, tu le nom de Paige maintenant. Et écoute, c'est une heel exceptionnelle qui lui ont donné le personnage de... c'est une fille, genre, qui va frapper des gars, mais qui va rentrer dans la face des fans, qui va pousser. Écoute, ça prenait, là, ils l'ont monté, là, ça prenait 5 gars pour la retenir. Et c'était vraiment bien. Puis elle a une attitude que tu veux pas la rencontrer dans une ruelle tout seul parce qu'elle pourrait te donner une volée. C'était vraiment le personnage qu'ils ont donné. Mais les filles, de façon générale, qui vont faire les finales. Puis même, je dirais, même le mid-card, c'est très, très, très solide. Les cheerleaders, Melissa, les Canadian Ninjas, Mercedes Martinez, c'est toutes des filles qui
luttent. Nos Québécoises, elles, combien qu'ils s'en sont tirées? Est-ce que Lufisto est aussi populaire qu'elle est au Québec?
Lufisto est rentré pour son premier match le samedi et une fois qu'il était dans le ring, il y a eu 200 personnes qui sont mises à chanter Lufisto, Lufisto, Lufisto.
Et Calamity, elle?
Calamity a très bien fait aussi. C'était sa deuxième présence à Shimmer. Elle a démontré beaucoup plus d'assurance qu'à la première. Je me rappelle, j'en avais parlé ici. Mm-hmm. D'ailleurs, on l'avait eu en entrevue et elle a démontré beaucoup plus d'assurance. Elle a lutté, elle a eu des beaux bookings. Elle a lutté avec Hayley Hatred qu'on a vu à Montréal, la femme fatale, et face à Lufisto, une sensation japonaise, Kana. Écoute, ça a été un des trois meilleurs matchs du week-end. Donc, il y avait les deux Québécoises là-dedans. Elle a eu même une chance au titre par équipe dans le show de soirée du samedi face à deux Japonaises, Ayumi Kurihara et Ayako Hamada. Ça a été vraiment une très belle performance, très beau week-end pour Calamity et aussi pour Lufisto.
Tu l'as peut-être dit, mais ils font combien de shows par année?
Ils vont faire deux tapings comme ça par année. Ils en font un au mois aux alentours de octobre-novembre, puis ils en font un aux alentours du mois de mars.
Okay.
Et puis, c'est...
toujours à Chicago?
Oui, c'est toujours à Berwyn, Illinois, une petite banlieue de Chicago. Okay. Ils font 4 DVD par fin de semaine. Ils font 8 DVD par année. Et puis, c'est vraiment un concept qui est unique.
Faut que t'en vendes.
Et oui. Mais c'est vraiment... Ça fonctionne. Ça se vend. Il y a un public pour ça.
Ils ont un site Internet qui marche.
Oui.
Ça l'aide.
Oui. Puis ils se font distribuer aussi par iSpots, entre autres.
Mais TW, c'est pas distribué par iSpots parce qu'il y a des vedettes, ça se vendrait.
Ça pourrait se vendre, mais j'en ai déjà parlé d'ailleurs aux personnes en place. Et mais comme Femme Fatale, les DVD de Femme Fatale se vendent avec iSpot et se sont vendus aussi au show de Shimmer. Et ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Les DVD de Femme Fatale, c'est présentement les DVD les plus vendus, les DVD de lutte provenant d'une promotion québécoise, les plus vendus à l'international présentement. Ah, et c'est un public qui
est vendu. C'est pas la CTW, ça. Parce qu'il paraît qu'eux autres, ça vend, là. Sans bon sens. T'as pas le dessus? Ça bon ça.
Chose certaine,
on a ça les gobelets à soir avec nos autres pattes.
TNA, c'est avec toi, j'ai lu ça. Tu parlais qu'ils avaient perdu leur.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure pendant le
bulletin de nouvelles. Leur distributeur de DVD.
Si je peux peut-être conclure là-dessus, la grosse différence entre la WWE, TNA et Shimmer, c'est qu'on reproche souvent justement aux filles de la WWE. Premièrement, elles sont pas
bookées.
C'est des catins, c'est des filles qui, écoute, ils font des combats d'une minute et demie, sont 4 contre 4 là, des fois. Donc, on reproche justement. Puis la TNA a déjà eu une grosse division féminine quand c'était booké par Dutch Mantel. Maintenant, ça leur piqué du nez. Ça fait un petit bout, ça marche pas aussi bien. Et ce qu'on apprécie de Shimmer, c'est que les filles sont là pour lutter. Ils sont pas là pour être des Barbie, ils sont pas là pour poser dans Playboy, ils sont là pour lutter.
Hey, poser dans Playboy, ça fait longtemps que les WWE Diva ont pas été là. Hein?
Ben non, c'est rendu PG maintenant, donc ils ont plus le droit de poser
pour Playboy. Je pense qu'il y en a que c'était leur rêve de devenir une diva playmate, de trouver le temps long là.
Alors bref, je suggère vraiment tout le monde là qui ont jamais vu de Shimmer, de au moins peut-être acheter un DVD, puis commencer par ça. Vous allez voir que la lutte, là, c'est autrement différent de ce qu'on voit les lundis, les jeudis soirs ou les samedis matins.
Si je comprends bien, Pat, quand tu vas voir Shimmer, tu rentres à quelle heure? à l'événement?
Ben, nécessairement, moi, je rentre avec la gang de Montréal, qui est, bon, Stéphane Brière.
Non, mais je veux dire, fan.
Ah, le fan va rentrer aux alentours des, à peu près peut-être une demi-heure, 45 minutes avant le début du show.
Ce qui est quelle heure?
Ce qui est une heure et quart. Ben, c'est parce que les heures sont pas les mêmes. Il y a le samedi, je pense que vraiment c'est à 2, puis le dimanche à 1.
Mettons
7 à 8 heures dans la salle.
Ils vont, ouais,
plus donc, le party après. Fait que t'es vraiment... C'est un événement intense.
Il y a une loi à Berwyn qui empêche les gens de sortir d'un événement pour aller fumer. S'ils rentrent, faut qu'ils repayent un billet. Alors les gens sont vraiment dans la salle. Pendant tout ce temps-là, ça.
Mais ils vendent des patchs en dedans, c'est ça.
T'achètes 3 DVD, t'as une patch.
Non, mais c'est juste pour vous montrer que oui, ils sont vraiment dans la salle tout ce temps-là. Et les filles, là, vous devriez voir ça. Il y a 200 fans entre les deux shows qui s'avancent vers les tables de merch et c'est une marée de monde là, qui sont là. Les filles, ça gueule, ça essaie de vendre le plus de choses possible. Non, c'est vraiment comme presque un petit marché aux puces où tout le monde veut vendre ses affaires. Puis il y a plusieurs personnes qui vont acheter là à beaucoup de filles. Il y en a qui vont dépenser des centaines de dollars en marchandises. Si les filles ont des nouvelles photos, tout de suite, ah ben t'as une nouvelle photo, je te la jette. Lufisto qui vend des DVD là-bas à la tonne, les t-shirts aussi. Donc c'est vraiment une foule qui est fans, qui est partisane, puis qui dépense pour le produit qu'ils aiment. Fait, c'est parfait pour tout le monde.
Cool. Merci. Toi, Sylvain, en tant que lutteur indépendant, t'as jamais pensé de te faire un DVD avec tes matchs? Vends-tu encore de la merch, de la marchandise?
Moi, c'est pour un lutteur, c'est les photos. On fait beaucoup d'argent avec les photos. Je vois quand je lutte à l'extérieur, mettons qu'on parle d'une Rivière-du-Loup, Saint-Jean-Port-Joli, je devrais passer par événement une cinquantaine de photos. C'est là que moi, je fais beaucoup d'argent. Les t-shirts, au Québec, c'est un petit peu moins populaire, je pense. Ça l'a déjà été parce que les coûts de production sont très 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 élevés. Mais non, ça pourrait peut-être se vendre un DVD. Ça faudrait que je mette quelqu'un là-dessus, quelqu'un de fiable. Ben,
exemple, si tu le faisais, est-ce que tu pourrais avoir les droits de tes combats? Est-ce que tu les aurais de Vince, non?
Oh non, la WWE.
Fait que tu pourrais pas le faire.
Non, je pourrais le faire,
mais pour la TOW.
Mais je veux dire.
Ça sera un best-of de ce que tu as fait dans les Indies.
Ouais, mais quelqu'un qui veut le DVD de Sylvain Grenier voudrait ça aussi, là.
Ça arrivera jamais.
Non, mais il reste que si t'en fais un, tu le fais ou tu le fais pas.
Mais n'en faire un pour la TOW simplement. Tu as déjà pensé?
Ben, c'est moi qui pense pas vraiment, hein.
Monsieur le commissaire, avez-vous déjà pensé à vendre un DVD de best-of?
Ben moi, je pense
même qu'il y a trop... un bon
match. Il y a trop de bonheur.
On est rendu à 9.
Flush 11 heures.
Mais ça, c'est pas bête. Je suis pas sûr que je vais faire des demandes avec mes contacts à WWE. Ça, c'est pas bête. Pour peut-être avoir un...
Historiquement, Vince n'a jamais permis ça.
Je lui donnerai
ça,
une cote.
Ben, écoute, des extraits de la Ohio Valley Wrestling.
Ça intéresse à faire mon DVD.
Ben, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il accepterait pas si c'est pas eux autres qui le
produisent. Des extraits de la Ohio Valley Wrestling, ça doit sûrement exister.
OVW, ça, tu pourrais peut-être arranger avec Danny Davis. Peut-être que là, ça pourrait se faire.
Ben, Dangerous, tu lui?
Non.
Non, c'est pas le même.
Non.
Marc, ton crayon travaille depuis tantôt. Est-ce que tu fais un dessin ou t'as quelque chose à me dire?
Non, rien. Je voulais te montrer que d'un côté, il y a une flashlight, puis l'autre côté, il écrit.
T'as dit Danny Davis?
Oui.
C'est à lui la fédération.
Danny Davis, à OVW.
Il n'y avait pas un arbitre.
Ben oui, ça dit. C'est Dangerous Danny Davis, c'est
ça que je viens
de dire.
C'est pas le même.
Qui avait lutté contre George the Animal Steel.
Ben oui, il y avait...
À WrestleMania 3.
Pas bon.
Il avait lutté avec la Heart Foundation.
Mais comme arbitre, c'était bon son
histoire.
Ça avait été un bon personnage à ce moment-là qu'on voyait pas souvent.
Ah ben, j'ai toujours cru que c'était lui, moi.
Ben moi aussi, c'est sûr, je pose la question.
Pendant qu'on a un blanc, juste vous dire, Bertrand Hébert a mis sur la page Facebook
du show.
Non, mais
ça dure 40 secondes.
Il a mis plusieurs liens pour justement Shimmer. Donc, ceux qui sont à l'écoute présentement, vous pourrez aller voir ça et pouvoir peut-être vous intéresser à cette promotion féminine.
Donc, merci beaucoup tout le monde.
T'as même pas la chance de nous conter comment t'avais trippé... WWE la semaine passée.
C'est vrai, première rangée, conte-nous ça.
Oui.
Vais-vous rire de moi?
Ah non, t'étais pas première rangée?
Moi, là, comment que je pourrais dire ça? Le ring était là, Patricia était là, OK? Puis moi, là... J'étais là-bas. Voilà. Ça en dit long parce que j'étais placé. Merci beaucoup tout le monde. C'était le 23e épisode du TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM. Merci beaucoup Patrick d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
J'espère qu'on va t'avoir avant la fin de la saison.
Je devrais être là pour la balance de l'année.
Excellent. Oh. Merci beaucoup Sylvain. Deux shows en ligne.
On est qu'au mois de mars.
La balance de l'année, la balance de la saison. Okay.
Deux shows en ligne pour toi Sylvain. Que t'arrives à l'heure. De bonheur.
Parce qu'il est blessé, là. Il joue pas au hockey.
Je suis blessé.
La saison lui, il jouait au hockey sur le lac, fait qu'il y a la chienne là, pas à peu près.
J'espère être correct pour TOW.
Hey, demain, oui. Je sors ma moto!
Oui, c'est vrai ça. Ça va me dire bonjour au centre-ville, Marc, demain?
Non.
Non? OK. Bon, ben sur ce, je vous souhaite bonne fin de soirée à tous. On se revoit la semaine prochaine où on se réentend. C'est à 21h, TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM et le 1570.ca. Fais-nous un bye-bye à la Marc Blondin, là.
Bye-bye.
Ta phrase mythique.
Ben, la semaine prochaine, soyez-y, mesdames, messieurs!